Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Antoine Cavallero.
Bonjour à tous, RTL Midi, ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et à la une, l'arrivée du Tour de France Femmes. Contrairement aux hommes qui sabrent le champagne sur les Champs-Élysées, la dernière étape se termine en apothéose au sommet de la super planche des belles filles. Sauf rebondissement, on attend la victoire de la favorite Van Vleuten. La vague de chaleur, la troisième en deux mois, elle arrive. Comment on s'y prépare quand on habite dans 16 mètres carrés? Une étudiante marseillaise nous raconte. Les températures en hausse à partir de demain. Valérie, cet après-midi, ça va encore?
Oui, ça va encore, c'est vrai. Alors, ok, dans le sud-est, il fait déjà chaud depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, ça change pas, c'est normal. 37 degrés à Nîmes, c'est élevé, mais c'est à peu près normal pour la saison. On va avoir 22 degrés à Brest cet après-midi, 24 à Lille, 30 à Nancy, 31 degrés à Paris, 32 à Limoges, 33 pour Dijon et Toulouse, 34 degrés à Toulon, un ciel la plupart du temps bien dégagé, juste un petit peu de grisaille et quelques gouttes de pluie le long des côtes de la Manche. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est le vent, le Mistral et la Tramontane d'ailleurs, qui soufflent respectivement entre 40 et 50 km/h en pointe du Roussillon à la Provence.
Merci Valérie Quintin. Dans l'actualité également, à mi-parcours, quel bilan pour notre tourisme pour cette saison estivale? C'est l'enquête RTL du jour. En Ukraine, le président Zelensky appelle les civils à évacuer une partie du Donbass. Il dit vouloir les protéger de la terreur russe. Et puis le football, PSG Nantes, c'est l'affiche du trophée des champions, c'est ce soir en Israël. Nous sommes avec notre envoyé spécial. Comme tous les dimanches, Bernard Lehu est là. Bonjour Bernard.
Bonjour, bonjour à tous.
Dans une vingtaine de minutes, vous nous emmènerez sur vos chemins d'écrivain. Où irons-nous ce dimanche?
Eh bien sur l'eau, dans la Venise verte, au cœur du Marais Poitevin, en compagnie de la navigatrice et romancière Isabelle Tissier. À tout à l'heure, à 12h50.
À tout à l'heure. Boucler le tour en beauté, la super planche des belles filles comme ligne d'arrivée, ça promet d'être dantesque. 7 km d'une montée infernale avec des passages à 24% sur les derniers hectomètres. Ce dimanche, c'est la dernière étape d'un Tour de France Femmes disputé et c'est Dimitri Ramelot qu'on retrouve dans les Vosges pour RTL. Bonjour Dimitri.
Bonjour à tous.
Vous suivez cette fin de tour et le public est au rendez-vous.
Oui, devant le podium sur lequel défilent les différentes équipes avant le départ d'étape, Marcel et son petit-fils ont les yeux qui brillent.
Chapeau, hein, parce que je fais du vélo, je sais ce que c'est du vélo. Hein. Chapeau pour les dames qui font un truc comme ça aussi costaud. Hein. Déjà, le parcours aujourd'hui, la montagne, c'est dur, il faut les pousser, il faut les soutenir. Hein.
Et le grand-père espère bien avoir le temps de rallier en voiture, puis à pied, la montée vers la super planche des belles filles, car les derniers coups de pédale vaudront le détour. À en croire Stéphane Delcourt, directeur sportif de l'équipe FDJ, dont le dernier briefing sera particulier.
Cette arrivée, elle est magique. On l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des arrivées pour l'épreuve masculine, ça a beaucoup plu. Là, en plus, on va pas à la super belle planche. On va avoir cette partie gravel. Et de finir par là, ça donne un côté différent du Tour de France masculin qui se finit toujours sur les champs, sur une épreuve plate. Ça peut être notre signature, c'est sûr.
Et en fin d'après-midi, temps sera venu pour coureuses et spectateurs de se quitter en espérant tous se revoir l'année prochaine.
Et oui, il y aura bien une prochaine édition. Merci Dimitri. Un Tour de France femme en 2023. Marion Rousse, la patronne de la compétition, l'a confirmé ce matin sur RTL. Elle était l'invitée d'Alexandre de Saint-Aignan.
On est déjà en train de penser au parcours de l'année prochaine, en train de travailler dessus. Des améliorations, je pense qu'il faut vraiment chaque chose en son temps, passer cette dernière étape et puis faire une grande réunion entre nous. Évidemment, on se note quelques trucs. L'année prochaine, on restera certainement sur un format de 8 jours de course. On en a parlé également avec les équipes de sportifs. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment un format qui correspond à tout le monde et qui reste cohérent. Évidemment qu'on a envie, comme le Tour de France, de partir un peu partout, de voyager dans la France entière. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'on arrive une deuxième fois à la même place, tout comme ça m'étonnerait qu'on parte de Paris l'année prochaine.
Et on a hâte de le découvrir, ce tracé du Tour Femmes 2023. C'était Marion Rousse, invitée ce matin sur RTL. Pour revenir à cet après-midi, on rappelle qu'après sa démonstration de force hier, c'est Annemiek van Vleuten qui est en jaune, sauf surprise. La Néerlandaise est favorite du Tour, devrait monter sur la première marche du podium ce soir, arrivée prévue vers 17h30. La route des Vosges conquise donc par les cyclistes. Dans le reste de la France, c'est toujours le chassé-croisé et c'est donc toujours rouge dans la vallée du Rhône. Plus de 400 km de bouchons cumulés. Midi 34 sur RTL, la France se prépare. Le mois de juillet se termine et voilà déjà une troisième vague de chaleur qui arrive. Elle va surtout toucher le sud de Bordeaux à Nice jusqu'à 36 degrés à Marseille. Alors sous les combles, dans les logements les plus étroits, on se prépare tant bien que mal. Célestin Bougère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Marseille pour RTL et vous avez rencontré Julie, étudiante. Elle vit dans 16 mètres carrés.
Oui, elle m'a fait visiter son petit appartement au sixième étage de son immeuble. Un petit lit, une cuisine, une salle de bain, pas de climatisation et seulement une fenêtre pour aérer. Alors on se rend bien compte que ces grosses chaleurs sont loin d'être agréables pour elle.
Voilà, comme vous voyez, il fait super chaud. J'ai poussé le lit sous la fenêtre parce que c'est un peu le seul moyen d'avoir un petit peu d'air frais quand il y en a. Parce que ouais, sans clim, c'est difficile.
Des petites techniques pour se rafraîchir et mieux dormir. Julie n'est pas en vacances, elle travaille cet été. Et ce n'est pas toujours facile de se lever le matin après une nuit perturbée par la chaleur.
J'étouffe un peu, donc du coup c'est vrai que la journée c'est pas top parce que ouais, je suis hyper fatiguée. Je vais quand même investir, je pense, dans un mini ventilo ou quelque chose comme ça, parce que là ça va être compliqué. S'il refait chaud comme ça, ça va être hyper dur.
Ça fait bien longtemps ici que le thermomètre n'est pas passé en dessous des 30 degrés l'après-midi, alors cette nouvelle vague de forte chaleur est redoutée par tous les habitants qui sont dans la même situation que Julie.
Merci Célestin Bougère à Marseille pour RTL. Et cette vague de chaleur doublée de rafales de vent Mistral et Tramontane, elle inquiète particulièrement Météo France qui donne l'alerte. Il faut s'attendre à un très fort danger d'incendie sur le pourtour méditerranéen. Les incendies qui se sont déjà multipliés cet été en Gironde, après avoir vu plus de 21 000 hectares réduits en cendres, l'État promet d'être là sur le plan économique. Pour les entreprises touchées, elles vont pouvoir bénéficier du chômage partiel. Parmi elles, les fameux campings de la dune du Pilat, détruits par les flammes. À commencer par le plus célèbre, le camping des Flots Bleus. RTL va suivre planche par planche, clou par clou, la reconstruction. Philippe de Maria, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pu joindre le propriétaire Franck Couder. Il salue ce soutien du gouvernement, cette aide qui va lui permettre de rouvrir son camping au plus vite.
Ah, c'est son souhait le plus cher, sa motivation est forte, vous allez l'entendre, il a déjà arrêté une date.
Nous on s'est fixé ouverture début avril 2023. Peut-être une ouverture partielle avec moins de locations, beaucoup d'emplacements, tentes, caravanes, camping-cars, mais en tout cas on veut ouvrir au mois d'avril 2023, on veut donner raison encore une fois à M. Macron. Mais moi, je suis convaincu que ça se fera.
Et Franck et ses collègues espèrent que l'État les accompagnera dans leur reconstruction. Ils sont dans un site naturel protégé. La réglementation est draconienne.
Et RTL suivra donc la reconstruction du camping des Flots Bleus. Merci Philippe de Maria pour ce témoignage exclusif. Dans un instant, enquête RTL. Quel bilan à mi-parcours pour notre tourisme pour cette saison estivale? On voit ça dans un tout petit instant.
RTL Midi. RTL Midi avec Antoine Cavallero.
Nous sommes le 31 juillet et à mi-parcours, RTL fait un premier bilan de la saison estivale et il est plutôt bon. Les glaces et les chouchous se vendent bien, la Tour Eiffel fait le plein, les hôtels sont pleins entre 80 et 85% à Paris. Au Touquet, la plus connue des stations balnéaires du Pas-de-Calais, il y a même plus de touristes qu'en 2019, dernière année de référence avant Covid. De quoi réjouir Jean-Michel Thibault, président de l'UMI local et directeur d'hôtel.
Ça a été un très bon mois. Je pense qu'on est au-delà certainement des prévisions qu'on pouvait se faire. Parce qu'on est toujours dans une incertitude liée par rapport au Covid et des inquiétudes aussi par rapport au monde économique. Je pense que le Touquet, d'abord, c'est un travail de très longue haleine. Hein. Et aujourd'hui, le résultat est là. C'est une station qui devient, je dirais, une très belle station sur le plan national. Je dirais par rapport à la proximité européenne. Vous parlez des Belges, vous parlez des Allemands. Bon, aujourd'hui, le marché anglais, les restrictions se sont levées. Donc, on a revu les Anglais arriver en masse quand même, surtout sur le mois de juin. Juillet, ça se confirme. Donc, il n'y a pas de souci. Non, c'est mieux. C'est là la bonne surprise, quoi.
Propos recueillis par Samuel Duhamel, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. C'est l'image du jour à l'étranger. Volodymyr Zelensky, t-shirt kaki, cerne sous les yeux. Le président ukrainien appelle les civils à quitter la région de Donetsk, à évacuer face à la terreur russe. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Chef du service étranger de RTL. Alors pourquoi cet appel ? Il reste combien de personnes dans cette région ?
200 000 civils, dont 52 000 enfants. 80% de la population de cette province a déjà été évacuée. Et pour ceux qui restent, ils doivent donc partir obligatoirement avant l'automne. D'abord, pour éviter d'être tués par les Russes. Et puis, parce que les ressources en gaz ont été détruites, il ne sera pas possible de chauffer les logements l'hiver prochain. Ceux qui ne partent pas devront signer une dérogation de responsabilité. Sortir les civils des champs de bataille, c'est maintenant un mot d'ordre depuis le massacre de Marioupol au printemps dernier. Souvenez-vous, la population avait subi l'encerclement par les Russes. Alors il faut éviter de répéter ce scénario.
Mais est-ce que ça veut dire que l'Ukraine bat en retraite face aux Russes ?
Ah non, 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 les combats continuent. Ils ont même repris de plus belle depuis quelques jours. Moscou augmente la pression. Objectif au nord de la province, Sloviansk et Kramatorsk. Si ces deux villes tombent, le drapeau russe flottera sur l'ensemble du Donbass. Cet appel de Zelensky à évacuer, c'est le signal aussi que l'Ukraine s'apprête à contre-attaquer, que le Donbass va devenir un énorme champ de bataille pendant les mois à venir.
Alors il faut bien le repréciser, hein, Bénédicte, dans le Donbass, il y a Donetsk et il y a Louhansk. Dans cette deuxième zone, où est-ce qu'on en est des combats ?
Ah ben, Louhansk est totalement tombé dans les mains des Russes il y a quelques semaines. Souvenez-vous de Severodonetsk, de Lysychansk. Maintenant, c'est à surveiller. Les Ukrainiens ont en leur possession les puissants lance-missiles longue portée américains Himar et français César. Donc, la donne peut changer.
Merci Bénédicte Tassard. Toujours concernant l'Ukraine, Kiev dément fermement avoir visé la marine russe en Crimée. Moscou accuse les Ukrainiens d'avoir mené une attaque au drone. Cette dernière a fait 6 blessés. La flotte russe, dont c'est la journée nationale aujourd'hui, Vladimir Poutine supervisait ce matin une immense parade navale à Saint-Pétersbourg. Lors de son discours, il a assuré que la Russie allait acquérir un nouveau missile hypersonique dans les prochains mois.
RTL Midi avec Antoine Cavallero.
Le sport, après 2 mois de pause, le coup d'envoi de la saison avec le trophée des champions, un premier titre à gagner. Paris Saint-Germain-Nantes, c'est l'affiche qui se dispute à Tel Aviv. On retrouve notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de RTL, Baptiste Durieux. Alors Baptiste, ce soir, on ne verra pas Kylian Mbappé, il est suspendu. On scrutera donc les deux autres stars, Lionel Messi et Neymar. Le Brésilien qui promet un renouveau, lui qui nous a beaucoup déçus depuis son arrivée en 2017.
Oui, et le Qatar d'ailleurs ne voit pas forcément d'un mauvais œil un éventuel départ du Brésilien, mais son entourage laisse filtrer la volonté absolue de Neymar de continuer à Paris. Et cet été, il semble avoir pris la mesure du statut qu'il doit avoir, son compatriote Marquinhos, capitaine du PSG.
Je le connais très bien, je sais que Neymar, il aime bien les défis. Lui, c'est quelqu'un qui est très compétitif. Le début de saison qu'il fait, les entraînements, comment il est focus, comment il a travaillé pendant les vacances pour pouvoir revenir en forme, ça fait plaisir de le voir comme ça. J'espère qu'il va montrer toute la qualité qu'il peut encore avoir.
Celui qui aura un rôle déterminant dans la gestion du cas Neymar, c'est le nouvel entraîneur parisien Christophe Galtier. Il compte sur le numéro 10 du PSG et pour l'instant, il est très satisfait.
Concernant Neymar, j'ai un joueur joyeux, heureux, très professionnel. Il est arrivé préparé, fit. Jusqu'à présent, il n'a manqué aucune séance et il travaille.
Neymar, mais aussi Messi, se sait très attendu cette année. Sans Mbappé, les deux Sud-Américains devront être décisifs dès ce soir.
Baptiste Durieux, envoyé spécial de RTL en Israël, le trophée des champions PSG Nantes, coup d'envoi 20h. Et puis chez les dames, la finale de l'Euro de foot Angleterre-Allemagne, c'est à 18h dans un stade de Wembley à guichet fermé. Allez, une pause et dans un instant, on rejoint Morad Jabari. Vous savez, il vient de passer sa semaine le long du canal du Midi. Il nous raconte tout. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, Antoine Cavallero.
Midi 46, tout l'été, vous le savez, nos reporters sont avec vous en vacances. Une semaine, une nouvelle destination. Et après Julie Brault au camping au Cap d'Agde, après Nerissa et Mani dans les gorges du Verdon, c'était au tour de Morad Jabari. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de passer une semaine le long du canal du Midi qui relie, on le rappelle, Toulouse à Sète et donc l'Atlantique à la Méditerranée. 278 km et c'est ça qui est bien avec vous. Vous êtes un touche-à-tout. Combien de moyens de transport utilisés en une semaine pour faire ces 278 km ?
Alors j'ai débuté avec le vélo à Montferrand, c'était juste à côté de Toulouse, c'est le milieu en fait du canal du Midi. J'ai ensuite fait une petite balade en bateau.
Forcément.
Et puis j'ai pris un peu d'altitude. Ensuite, j'ai pris un planeur pour faire la visite du bassin du lac artificiel de Saint-Féréol qui vient alimenter le canal du Midi.
Expérience incroyable, hein. Vous m'avez bluffé sur ce coup-là, je dois l'avouer, vous qui n'êtes pas très fan des avions montés dans ce petit coucou, mais c'est vrai que ça valait le coup aussi, hein, parce que vous avez pu survoler le lac Féréol, un lac qui malheureusement est victime de la sécheresse. C'est ce que vous confiez Bastien, c'était votre pilote du jour.
Les étés, on le voit atteindre un niveau assez bas, et là, on voit qu'il est vraiment extrêmement bas par rapport aux années précédentes. On le voit d'ailleurs sur les berges, hein, qui sont, on voit la partie qui est creusée tous les ans par la présence de l'eau. Et là, la zone des berges qui a séché est assez impressionnante et tristement impressionnante.
Et oui, la sécheresse qui touche cette région très agricole. De retour sur la terre ocre de l'Aude, vous êtes allé à la rencontre des maraîchers, Morad. On écoute Jean-Pierre qui cultive notamment des tomates.
Voilà, ça c'est incommercialisable. Il y a la moitié de la tomate qui est pas mûre, qui est brûlée. On a jeté 20%, là c'était la première ramassée. Et déjà, il y en a déjà d'autres qui arrivent là.
Et ça c'est les épisodes de canicule,
c'est la chaleur. Là c'est la chaleur, le soleil, le rayonnement qui était trop puissant. On a eu des 38-40 à l'ombre là, ça doit leur faire les pauvres tomates. 50 degrés, donc automatiquement, on peut pas les protéger.
On entend à Morad vraiment la détresse de ce maraîcher, cette sécheresse, elle est partout le long du canal.
Exactement, et il suffit de suivre ce canal du Midi pour s'apercevoir que les départements de l'Aude, de l'Hérault, souffrent de cette sécheresse. Par exemple, les platanes, qui sont l'emblème un peu du sud et du canal du Midi, ont leur couleur d'automne. Ils perdent leurs feuilles ou les feuilles sont brûlées par le soleil. Il y a ce maraîcher aussi qui perd plus de 30% de sa récolte depuis plusieurs semaines.
C'est énorme.
Et qui pourtant peut irriguer quand même un peu, même s'il y a des restrictions, ces cultures. Mais évidemment, il y a une sécheresse incroyable et il n'y a pas eu d'eau depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois ici le long du canal du Midi.
Le canal, vous l'avez ensuite repris pour arriver à Sète. C'était votre destination finale, la ville de Georges Brassens et son étang de Thau, endroit assez incroyable. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire la carte postale, Morad?
Oui, par exemple, j'étais à Bouzigues. C'est une petite ville, un village même qui est posé sur l'étang de Thau. Il faut imaginer des parcs de d'huîtres à perte de vue. Il faut imaginer le Mont Saint-Clair. C'est une petite montagne où est posé Sète. Et puis en toile de fond, vous avez la mer Méditerranée. C'est un paysage incroyable, idyllique, qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est pas très loin.
C'est promis. L'étang de Thau où sont élevées les meilleures huîtres de la Méditerranée. Il faut pas avoir peur de le dire. Morad, vous avez rencontré un ostréiculteur. Il s'appelle Corentin. Et vous lui avez demandé si le canal du Midi apportait quelque chose de spécial à ces huîtres.
Bien sûr, le canal du Midi est un apport d'eau douce toute l'année, ce qui nous permet d'avoir une photosynthèse, c'est-à-dire que les huîtres mangent du phytoplancton. Le phytoplancton est fabriqué par la photosynthèse. La photosynthèse est de l'eau douce et de l'ensoleillement. Donc automatiquement, l'eau douce du canal du Midi contribue à la richesse phytoplanctonique du milieu.
Bon, Morad, j'imagine que vous avez dégusté une petite douzaine d'huîtres quand même.
Non, pas une demi-douzaine, mais pas mal.
Elles étaient comment ?
Elles étaient très bonnes. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique de manger des huîtres en plein été, en plein mois de juillet, avec cette chaleur. Et finalement, elles étaient très bonnes. Et vous savez, pendant ce voyage, je me suis pas privé, Antoine.
On vous
c'est
fait
l'avantage. Je sais l'avantage. Vous connaissez mon goût pour la gastronomie, et c'est l'avantage d'être dans ce beau pays qu'on peut le dire, ce beau pays qui est la France.
Eh oui.
Quand on passe d'un département à l'autre, à chaque fois, il y a une spécialité. Il y a des goûts, des saveurs à explorer. Vous êtes dans l'Aude, vous mangez du cassoulet, excellent, je l'ai testé à Castelnaudary.
Vous étiez dans la capitale mondiale du cassoulet.
Évidemment, donc c'est des passages incontournables, il faut passer par l'assiette, hein, pour voyager aussi. Et puis quand je suis arrivé sur l'étang de Thau, les huîtres évidemment, et une fois arrivé à Sète, j'ai goûté la fameuse tielle sétoise et qui était excellente.
Morad Jabari, ce fin limier de la gastronomie, merci beaucoup.
Merci Antoine, à bientôt.
À très vite, Morad Jabari, reporter RTL cette semaine. C'est Vincent Serrano qui part en goguette, il prend de la hauteur, il part pour les Alpes. Vous le retrouvez dès demain dans la matinale de RTL. Dans un instant, Isabelle Autissier se confie à Bernard Lehu. À tout de suite sur RTL.
Antoine Cavallero, RTL Midi. RTL Midi avec Antoine Cavallero.
Midi 53 sur RTL, place à la littérature.
Chemin d'écrivain, Bernard Lehut.
Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode. Notre guide ce dimanche sera Isabelle Autissier. La navigatrice est aussi une romancière de talent. Son dernier livre publié au printemps porte un titre spectaculaire, Le naufrage de Venise. Isabelle Autissier est très soucieuse de l'avenir de notre planète. Y brosse un scénario cataclysmique, l'engloutissement de Venise provoqué par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Mais ce sont sur d'autres canaux que ceux de la Sérénissime qu'Isabelle Autissier nous emmène dans le Marais Poitevin entre Niort et La Rochelle.
Sous les arbres, en fait, on est dans l'ombre, on est dans cette ambiance extraordinairement paisible, puis une jolie nature. Une jolie nature, on vient de voir là des petits canards, des libellules. Il me semble que j'ai aperçu un martin pêcheur, puis une autre bestiole, je ne sais pas trop ce que c'était là-bas dans le fond.
Et donc, nous sommes sur l'eau, à bord d'une barque avec laquelle on peut sillonner ce marais.
On rame, mais normalement ici, historiquement, on n'avait pas de rame, on avait ce qu'on appelle des pigouilles, qui étaient des grands bâtons. On plante dans la vase et on fait avancer son embarcation comme ça, de planter en planter en fait, parce qu'évidemment ces petits canaux sont pas profonds du tout, c'est quelques dizaines de centimètres maximum. C'est un endroit où j'aime bien venir me ressourcer parce que évidemment moi j'habite La Rochelle. La Rochelle, bon c'est le bateau, la mer, c'est tonique, hein, il se passe plein de choses. Et puis moi quand j'y suis, il y a le port, les bateaux et tout ça. Et quand j'ai vraiment envie de regarder la bande de petits canards qui passent, comme ils sont drôles. Ah oui. Mais en tout cas quand j'ai besoin d'avoir un moment paisible. Soit je mets le vélo dans la voiture et on vient avec des copains et après il y a des petits chemins avec des tas de petits ponts, des écluses, etc. Soit on vient et on loue une barque plutôt au printemps, en été comme ça pour se retrouver à l'ombre, on emmène le pique-nique, on passe la journée, c'est hyper relaxant.
Et alors, ce marais, ça fait écho à votre dernier roman, Le naufrage de Venise. On le surnomme la Venise verte.
Oui, c'est un joli surnom. Évidemment, ça n'a rien à voir, puisque il n'y a pas Venise ici, il n'y a pas les palais, les églises et toute cette magnificence. C'est plutôt une Venise naturelle, c'est plutôt une Venise arborée ici.
Quelle est l'origine d'ailleurs de ce marais ?
Ici, au temps des Romains, il y avait la mer. Petit à petit, la mer s'est retirée. Et donc, il est resté... Ce paysage, c'est très plat ici. Donc forcément, les eaux ne circulent pas beaucoup, elles ont tendance à stagner. Et puis voilà, c'était un lieu quand même où se cachaient donc soit des malfrats, soit... Au moment du siège de La Rochelle, quand La Rochelle, la protestante, a été mise au pas par le roi catholique, il y a pas mal de protestants qui se sont réfugiés ici.
Allez, Ramon.
Ce qui est très beau ici, ce que j'adore ici, c'est ces côtés ombre et lumière. C'est-à-dire que voilà, on a une journée merveilleuse et un ciel tout bleu. On est bien au frais d'ailleurs. Et on a des taches de lumière parce qu'il y a des trouées. Il y a peut-être un arbre peut-être qui est tombé. Donc ça fait une trouée de lumière. Et ça, c'est aussi très animé, quoi. Ça donne beaucoup de relief en fait au paysage. Je trouve qu'on a souvent perdu ce lien un petit peu charnel avec les environnements que je retrouve aussi en mer d'ailleurs. Mais que je retrouve ici. Et c'est pas si facile dans les endroits terrestres de retrouver ce sentiment-là.
On a droit à une superbe sérénade, là.
Ah oui, là, il est... Je ne sais pas s'il appelle sa belle ou... enfin, là, on a vraiment un chant extraordinaire. Hein. Ce beau petit maire, là, qui a l'air tout content.
C'est un petit peu le royaume des oiseaux dans ce marais Poitevin. Est-ce qu'il y a une autre faune? Est-ce que vous y êtes sensible?
Alors, il y a des écrevisses. Il y a l'écrevisse américaine, l'écrevisse de Louisiane, qui est arrivée... Ce qui n'est pas forcément génial parce que c'est un animal qui n'a pas de prédateur et donc qui est très 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 vorace. Donc qui a un peu tendance à...
Faire le vide autour d'elle.
Faire un peu le vide autour d'elle. Par contre, alors il y a des ragondins, ça c'est sûr, mais il y a aussi des loutres. Et c'est un des derniers endroits de France où il reste des loutres. En plein jour, on ne peut pas les voir. C'est un animal qui est très, d'abord assez solitaire et puis qui se balade plutôt le soir ou la nuit. Donc,
bon, ben, nous reviendrons ce soir.
Voilà, voilà, on reviendra à la fraîche. Mais oui, ça reste un endroit et c'est devenu un animal très rare en France. Ça fait partie des richesses du marais aussi.
Oh, Isabelle Autissier, regardez là sur la, à gauche. Qu'est-ce que...
Magnifique héron, un grand héron cendré.
Sur sa branche.
Oh, il doit guetter le petit poisson, je pense. Il attend le casse-croûte de midi, là. Il est magnifique. Très bel oiseau.
Bon, ben on va s'éloigner tout doucement, ne pas l'effrayer.
Voilà.
Nous voici au port.
Tout le monde descend, attention. Hop.
J'y vais, hein, parce que j'ai moins le pied marin que vous. Merci Isabelle Autissier pour cette formidable promenade dans cette Venise verte. Est-ce qu'il y a une, je ne sais pas, une musique, une chanson que vous associerez à cette Venise verte et à ce marais?
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était très paisible, donc je verrais bien un genre suite pour violoncelle de Bach, par exemple.
Jean-Sébastien Bach et le violoncelle de l'immense Mstislav Rostropovitch pour quitter en beauté le chemin d'écrivain d'Isabelle Autissier dans la Venise verte du Marais Poitevin. Son livre Le naufrage de Venise est publié aux éditions Stock. Les chemins d'écrivain sont à retrouver, vous le savez, sur l'application RTL. Dimanche prochain, changement d'ambiance, de paysage et d'éléments, nous partirons dans le massif du Mont Blanc au bord de la mer de glace avec l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTL.
Merci Bernard Lehu pour ce chemin d'écrivain passionnant et je vous dis à dimanche prochain.
Passez un bel été sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
RTL, il est 13h. Et voici les principales informations à retenir. La France qui se prépare, le mois de juillet se termine et déjà une troisième vague de chaleur en vue. Elle va surtout toucher le sud-est sous une ligne Bordeaux-Lyon jusqu'à 38-39 degrés à l'ombre. Cette vague de chaleur doublée de rafales de vent, Mistral et Tramontane, elle inquiète particulièrement Météo France. L'Institut donne l'alerte, il faut s'attendre à un très fort danger d'incendie sur le pourtour méditerranéen. Dernier week-end de juillet, vous êtes nombreux sur les routes. On le rappelle, bison futé, voie rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec nous en studio, Pierre Collat, bonjour.
Bonjour.
Le pic à plus de 480 km de bouchons.
Oui, mais rassurez-vous, hein, si vous êtes au volant, la courbe diminue, c'est la pause déjeuner. On attend toutefois un nouveau pic entre 18h et 20h. Dans le centre, vous perdez actuellement une heure dans des ralentissements entre Montluçon et Clermont-Ferrand. Ça vous concerne si vous roulez sur l'A71. Et puis dans la vallée du Rhône, ça roule mieux qu'hier. Tout de même, une heure de plus entre Lyon-Sud et Orange dans le sens de la descente et une vingtaine de minutes de ralentissement dans l'autre sens.
Merci Pierre Collat. Le point route, toujours aussi précis avec vous. À l'étranger, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle les civils à quitter la région de Donetsk, à évacuer face à la terreur russe. Toujours concernant l'Ukraine, Kiev dément fermement avoir visé la marine russe en Crimée. Moscou accuse les Ukrainiens d'avoir mené une attaque au drone. Cette dernière a fait 6 blessés. Le sport, programme chargé ce dimanche, a commencé par le Tour de France femmes, l'arrivée dans les Vosges, la super planche des belles filles, arrivée au sommet, on attend le sacre de la favorite, la néerlandaise Van Vleuten. Le football, toujours chez les femmes, c'est la finale de l'Euro à la maison, l'Angleterre affronte l'Allemagne, le stade de Wembley sera plein à craquer. Il y a aussi le trophée des champions, le PSG face à Nantes, le match se joue en Israël, à Tel Aviv, et puis enfin la Formule 1, le Grand Prix de Hongrie, départ à 15h en pole position, George Russell et sa Mercedes. La météo pour cet après-midi, un temps ensoleillé quasiment partout en France, en dehors des départements près de la Manche, du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais, où les nuages seront plus nombreux, mais avec quelques gouttes de pluie ponctuelles. On attend par ailleurs quelques averses sur le relief pyrénéen et corse, puis le Mistral et la Tramontane qui resteront soutenus dans le midi. Les températures température de l'après-midi de 22 à 37 degrés de Brest à Nîmes. Il fera 27 à Charleville-Mézières, 29 à Rennes, 30 degrés pour Paris, 31 à Nantes, 33 à Carcassonne, 34 à Lyon et Valence, 36 du côté de Perpignan, Avignon et Carpentras. RTL Midi, c'est fini. Je vous dis à ce soir et tout de suite, les voix du crime avec, est-ce qu'on peut me dire en régie? Ah, on ne sait pas, mais on va le découvrir très vite. Les voix du crime, c'est tout de suite sur RTL.